Dans l'actualité de la semaine passée, il ne vous aura pas échappé que c'était le mercredi 14 février, la Saint-Valentin. Et à cette occasion-là, il y a toujours des articles qui sont donnés dans les journaux, et il y en a un qui a attiré mon attention, qui parlait des couples « living together apart ». Je ne sais pas si vous connaissez là, les couples « living together apart ». C'est en fait les couples qui sont en couple, mais chacun a son appartement. Et apparemment, c'est une modalité de la conjugalité qui tente à se répandre. Alors, peut-être plus dans un microcosme parisien, c'est possible, je ne sais pas. L'article ne développait pas ce point-là, même si c'est la mode en question, apparemment, ça a commencé à New York, il y a beaucoup de choses qui commencent à New York. Enfin, c'est ce qui était intéressant et ce qui a suscité ma réflexion, c'était que ces couples-là disaient qu'ils voulaient partager des choses, mais ils ne voulaient pas perdre leur liberté. Et alors, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de réfléchir à ce lien entre amour et liberté. Parce qu'on voit bien que l'articulation entre les deux n'est pas forcément très évidente. Et alors, je vous propose de lire dans ce contexte-là, dans l'épître de Paul aux Galates, à partir du chapitre 5, verset 1. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1. Je vais lire dans la français, dans la seconde 21, avec juste quelques petites modifications. Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur, qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision ? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer, ceux qui jettent le trouble parmi vous ? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs, on pourrait même dire esclaves les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les querelles, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, les l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je vous l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères et sœurs, Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Vous aurez noté que dans ce texte, nous trouvons à trois reprises la mention de l'amour. Nous la trouvons au verset 6. Ce qui est important, c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. Nous le trouvons ensuite dans le paragraphe des versets 13 à 15. Soyez par amour serviteurs les uns des autres. Et puis, avec la citation qui suit de Lévitique 19. Et puis, au verset 22, dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans cette lettre de Paul aux Galates, l'apôtre Paul a fort à faire, puisque les Galates avaient été évangélisés par Paul quelques temps auparavant, sans doute pas très longtemps d'ailleurs, si on prend la chronologie la plus vraisemblable de la vie de Paul. Et quelques mois après, eh bien, il y avait des judaïsants qui étaient venus dans les églises fondées par Paul au sud de la Galatie et qui avaient dit « Oh, attendez, Paul vous a enseigné Jésus, c'est bien, mais n'oubliez pas la loi, et il faut que vous ayez Jésus plus la loi. » Et Paul, dans un plaidoyer vigoureux tout au cours de cette lettre-là, eh bien, dit « Attention, si vous êtes encore sous la loi, vous êtes encore sur l'esclavage, vous n'êtes pas libre. » Vous n'êtes pas libre. Et son plaidoyer, c'est « Soyez libre » ou plutôt « Réalisez que Christ vous a vraiment libéré ». Et c'est le cri que nous avons au verset 1, c'est « Pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage, sous un joug de servitude, puisque les rabbins juifs comparaient souvent la loi à un joug. Et donc, c'est bien ce à quoi Paul appelle les chrétiens de Galatie, à tenir ferme cette liberté que Christ leur a accordée. Et donc, le plaidoyer de Paul, il est pour la liberté. Alors ça, bien entendu, ça sonne très très bien, hein, puisque, je vous rappelle quelle est la devise de notre chère République, ça commence par liberté, liberté, liberté chérie. Donc, mais sauf que le problème, c'est que la perception et surtout le contenu que l'on met dans la liberté n'est pas forcément exactement superposable entre ce que Paul pensait et ce que nos contemporains pensent. Parce que la liberté, c'est quoi ? Au sens direct du terme, c'est « je fais ce qui me plaît ». Voilà, c'est ça la liberté. Je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas contraint par quoi que ce soit. Donc effectivement, la République, dans sa constitution, garantit la liberté. Mais Paul dit « attention, attention ». C'est pas exactement comme ça que les choses sont. Et il y a un élément qui est occulté, qui est majeur, c'est que l'homme, fondamentalement, n'est pas dans une situation de liberté. Quand bien même peut-il faire ce qu'il veut, eh bien, il sera, comme le dit Paul, et je prends un texte dans l'épître à Tite, qui décrit de façon assez sévère, mais ô combien juste, ce que nous sommes par nature. Tite 3, verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Et si l'on prend l'Évangile, Jésus, dans un plaidoyer sur ce sujet de la liberté dans Jean chapitre 8, il dit « En vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Et donc, après, il y a cette proclamation magnifique, « Si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. » Donc, ok, liberté, liberté, égalité, fraternité, sauf que liberté, c'est pas vraiment... L'homme, l'être humain n'est jamais vraiment libre. Au contraire, comme le dit Paul, et on pourrait multiplier les citations, hein, il est esclave de ses passions, de ses convoitises. Donc, la liberté à laquelle Christ nous a appelés, comme nous le dit ce chapitre, hein, c'est à la liberté que vous avez été appelés, le cri retentit encore au verset 13 de notre chapitre 5, c'est pas une liberté de faire ce qu'on veut, c'est une liberté vis-à-vis de Dieu d'être libre par rapport au péché. Ce qui est quand même le problème majeur. Parce que si la liberté était la vertu suprême et permette de résoudre tous les problèmes, eh bien, le monde libre, comme on dit, hein, on va parler du monde libre par opposition à un monde plus coercitif où il y a des dictatures, etc. Ben, le monde libre se porterait bien. Or, si on est un tantinet honnête, on voit que ce n'est pas vraiment totalement le cas. Donc, le problème majeur, eh bien, c'est un problème théologique. Ce n'est pas un problème social. Et le problème majeur, c'est ce à quoi Dieu s'est attaqué en Jésus-Christ pour nous donner cette vraie liberté, la liberté de la conscience devant Dieu. Et puis, la liberté pour avoir cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Parce que si vous posez la question, pourquoi voulez-vous être libre ? Ah, mais je veux être libre pour être moi-même. Ok. Libre pour être toi-même. C'est bien. Mais qui es-tu, toi ? Et avoir, on cherche ton identité, on va chercher beaucoup. Alors qu'en Jésus-Christ, et c'est là la réponse magnifique de l'Évangile, c'est que nous avons cette nouvelle identité, et vous remarquerez à combien de reprises dans ce texte, vous avez en Jésus-Christ, et en particulier notre verset 6, sur lequel je commente, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est la foi qui agit à travers la vie. Et donc, le premier point que je voudrais établir, c'est que nous sommes libres devant Dieu pour aimer parce que Dieu nous a libérés du péché et nous a donné cette nouvelle identité. Et que je n'ai pas à me chercher mille fois parce que je sais qu'en Christ, je suis un enfant bien-aimé du Père. Et ce n'était pas prévu, mais c'était bien de commencer ce temps de culte par cela. Je suis un enfant bien-aimé de mon Père céleste. Et alors, ça va me donner une assise de vie, de savoir que je suis aimé inconditionnellement par le Créateur du ciel et de la terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des identités secondaires. Je suis marié avec ma femme chérie Anne, je suis le père de deux filles, je suis ancien dans cette église, j'ai un travail. Donc tout ça, ce sont des identités secondaires qui ont leur place. Mais, comme le dit Paul dans cette même lettre au chapitre 3, ces identités... ce fameux verset 28 du chapitre 3, il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, vous êtes tous un dans le Christ Jésus, vous appartenez à Christ, vous êtes revêtus de Christ. Et donc l'identité principale du chrétien, c'est ça. Et après, il y a les identités secondaires. Bah, les Galates, ils restaient Galates, Paul, il restait originaire de Tarse, il restait un homme, il restait quelqu'un qui était citoyen romain, donc libre, etc. Ça ne disparaissait pas. Mais vous voyez à quel point les choses changent. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me chercher dans mes identités secondaires. Eh bien, j'ai cette identité primaire, fondamentale, qui est que je suis un enfant du Dieu éternel, aimé en Jésus-Christ, parce que identifié à Jésus-Christ dans ma vie. Et c'est pour cela que je peux être libre pour aimer. Et donc... nous voyons cette différence dans cette liberté que Paul nous présente. Et Paul continue, donc, alors il y a tout un cadre de ces débats concernant la loi, circoncire par circoncire, la circoncision qui était la marque par excellence du fait qu'on obéissait à la loi. C'est pour ça qu'il en est si souvent question dans ce texte-là. Mais ce que Paul affirme au verset 6, en effet, en Jésus-Christ, donc tout est relié au fait que nous trouvons notre identité en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. Et vous remarquerez que dans ce texte, Paul mêle de façon indissociable la foi et l'amour. Donc libre pour pouvoir aimer, libre devant Dieu pour pouvoir aimer. La foi qui agit à travers l'amour. Parce que ce qui nous est demandé, ce n'est pas simplement la foi, ce n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à une doctrine qui pourrait être juste, mais c'est une adhésion qui implique la foi, qui implique l'amour, pardon. Et l'amour va devenir cette marque du chrétien, comme le disait dans un opuscule qui m'a beaucoup frappé, Francis Schaeffer. Donc, une foi chrétienne qui serait sans amour, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est une contradiction dans les termes mêmes. Ça ne peut pas aller ensemble. Et si je crois Dieu juste comme cela par une pure adhésion intellectuelle, s'il n'y a pas dans le trépied de la foi, vous savez, cet élément de sentiment, d'être touché par l'amour de Dieu en Jésus-Christ, eh bien ma foi est incomplète. De la même manière que si elle reste purement sans action qui va avec. C'est pour cela que Paul va dire la foi qui agit avec l'amour. Et donc nous avons ce trépied de la foi, je comprends ce qu'est l'œuvre de Dieu en Christ, je suis touché par l'amour de Dieu et ensuite j'agis. Et donc vous voyez que cette foi qui agit avec l'amour. Et donc la seule chose qui compte, qui unifie la loi morale, c'est la foi-amour que présente l'Évangile. Et donc je suis libre vis-à-vis de Dieu pour aimer. Le deuxième point, c'est au verset 13, la deuxième mention du terme amour que nous trouvons dans notre chapitre. C'est libre vis-à-vis des autres aussi pour aimer. Alors, Paul réitère son affirmation au verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Ah, mais ça tombe bien, si je suis libre, ben je ne vais pas être esclave des autres. Et effectivement, dans nos relations avec les autres, nous avons une vraie liberté, une vraie liberté de me définir, non pas par rapport aux autres, ce qui me met quelque part sous leur loi. Parce que si on me dit, ben, il faudrait que, pour être un gars bien, il faudrait que tu sois comme ci, comme ça, eh bien, je me mets sous la loi d'un autre. Tandis que si j'ai été appelé à la liberté et que je reçois mon identité de façon verticale, eh bien, je vais avoir beaucoup moins peur du regard que les autres vont me porter sur moi et je vais être libre selon Dieu. Mais, et c'est là où Paul introduit un paradoxe qui pourrait nous surprendre, Paul va enchaîner en disant « C'est à la liberté que vous êtes appelé, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » Si Paul est très conscient d'un côté du danger de ce qu'on appelle le légalisme qu'il a traité dans les versets précédents, il est tout aussi conscient du danger que constitue la licence, et c'est ce qu'il évoque ici. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Alors, serviteurs, c'est traduit comme cela parce qu'on peut le traduire ainsi, mais il me semble que ce serait plus juste de le traduire, mais au contraire, par amour, soyez esclaves les uns des autres, parce que vous voyez que cela reprend l'expression du chapitre 5, verset 1, du premier verset de notre chapitre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Verset 13, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Verset 1, tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous une contrainte d'un esclavage. Verset 13 à la fin, pardon, soyez par amour esclaves les uns des autres. Pourrait à juste titre dire à Paul, mais est-ce que tu ne pourrais pas être un peu plus cohérent, mon ami? Parce que d'un côté, tu nous dis, il ne faut surtout pas être esclave, et de notre côté, tu dis, moi je vous dis d'être esclave les uns des autres. Alors, le paradoxe, Paul le touche ici, mais il va le développer un petit peu plus loin, plus tard, dans sa vie, dans l'Épître aux Romains, et ça vaut peut-être la peine de lire quelques versets du chapitre 6 qui vont éclairer ce que Paul voulait dire ici. Chapitre 6, verset 15. L'Épître aux Romains a été écrite sans doute vers l'an 57. Paul avait écrit l'Épître aux Galates une dizaine d'années presque auparavant, et sa pensée a maturé sans doute, et donc il donne les éléments de façon plus ordonnée dans Romains chapitre 6, verset 15. Quand il a cette question rhétorique, qui sans doute était un débat dans l'église de Rome par rapport à l'enseignement que Paul transmettait, « Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi et sous la grâce ?» C'est exactement ce qu'il vient de dire en Galates 5. N'usez pas de cette liberté comme une occasion de satisfaire vos désirs charnels. Certainement pas, ou jamais de la vie. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclave du péché, ça c'était quelque chose d'inévitable à laquelle nous ne pouvions rien parce que c'est la condition de tout homme, vous avez obéi de tout cœur. Et il faut vraiment lire ce verset en insistant de tout cœur. Vous voyez, la foi qui opère, qui agit par amour. S'il n'y a pas ce de tout cœur, ça ne marche pas. Vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement dans lequel vous avez été confié, et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. Donc Paul utilise une analogie qui a ses limites, c'est ce qu'il veut dire par cette parenthèse du verset 19. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez, mais vous voyez, là c'est pas, c'est une invitation que fait Paul, mettez un impératif, mais une invitation, un impératif sur une invitation. Mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Bon, je ne vais pas développer tout ce chapitre 6, mais juste, vous voyez combien Paul, dans un enseignement qui est totalement cohérent entre l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates, va relier cette liberté dans laquelle nous sommes avec le fait de volontairement se mettre comme esclave de Dieu et esclave de la justice. C'est donc cet esclavage volontaire par amour qui est le paradoxe dans lequel Paul nous introduit. Mais cet esclavage par amour, c'est nous qui le choisissons librement. Librement. Et c'est la vraie loi du chrétien. C'est ainsi que la vraie loi du chrétien. C'est pour cela que Paul va faire référence à Lévitique 19. Lévitique 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous rappelez qu'il y a quelques mois, nous avions évoqué ces deux grands commandements par lesquels Jésus avait cloué le bec au docteur de la loi à la fin de ses disputes avant d'aller à la croix. Et donc, Lévitique 19 nous dit, par amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul nous dit, eh bien finalement, toute la loi est accompli dans cette seule parole. Alors, le contexte lui fait omettre le « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme », parce que le propos de Paul, c'est de regarder les relations entre frères et sœurs. Mais il dit, voyez, vous aimez beaucoup la loi, vous avez envie d'obéir à la loi, ben, écoutez, regardez la loi, elle pointe vers finalement ce qui est son accomplissement, ce qui est cet amour de ton prochain, pour son prochain comme pour soi-même. Et donc, c'est la vraie loi du chrétien. Et vous remarquerez que Paul a aussi une expression qui est tout aussi paradoxale. Au chapitre 6, nous l'avons lu au détour d'un verset, à la fin du verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, j'y reviendrai tout à l'heure, et ainsi accomplissez la loi du Christ. » La loi de Christ. Aussi, ça peut paraître presque un oxymore. La loi et Christ, alors que Christ nous a libérés de la loi, il vient de le dire avec tellement de force. Comment il peut parler alors de la loi de Christ? Et si je vous disais, c'est quoi pour vous la loi de Christ? Qu'est-ce que Jésus a laissé comme commandement avant d'aller à la croix? Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimez l'un l'autre. Et ce qui est très frappant, et là aussi je lis quand même deux ou trois versets de Jean chapitre 13, d'où est tirée cette citation. Donc vous voyez ce commandement nouveau qui constitue la loi de Christ, dans le sens de la loi que nous a donné Christ. Mais aussi, ça constitue la loi de Christ, dans le sens où c'est aussi l'exemple que Christ nous a montré. C'est la loi que lui a montrée. Parce que si Jésus dit à ses disciples, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous, je vous donne ce commandement nouveau », c'est parce qu'au début du chapitre 13, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 3, « Jésus se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille, il versa de l'eau dans un bassin, il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. » Alors cette scène-là, elle nous est familière, mais dans le contexte de l'époque, qu'est-ce que cela voulez dire ? Quelle place Jésus prenait-il ce faisant ? La place d'un esclave. Ce n'était pas le maître de maison qui lavait les pieds. Ben oui. Et verset 13, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je l'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Autrement dit, ce n'est pas parce que volontairement on se fait l'esclave de son frère ou de sa sœur que l'on déchoit. Puisque Jésus dit, moi qui suis le maître et le seigneur, j'ai accepté volontairement par amour de me mettre à vos pieds et de vous les laver. Volontairement par amour. Donc l'exemple que nous a donné Jésus-Christ, c'est l'exemple de cette loi du Christ, cette loi que lui-même a mise en pratique. Et qu'il a mis en pratique encore de façon bien plus grande quand il est allé au bout, quand il a mis le comble à son amour pour nous, qui était, dont ce geste de laver les pieds de ses disciples n'était qu'un exemple, quand il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Alors, nous sommes donc libres vis-à-vis des autres pour aimer, et libres de choisir alors qui aimer. Ah ben oui, parce que ça, ce serait bien de savoir, libre de choisir qui aimer. Voilà. Faites-vous les esclaves les uns des autres. Ah ben, je vais choisir de qui je vais me faire l'esclave. Voilà, parce que l'esclave de quelqu'un de sympathique, de quelqu'un qui ne mettra pas trop le gratin dessus, ça ira bien, ça. Eh ben non, parce que tu aimeras ton prochain. Et le prochain, ben je ne le choisis pas. C'est celui qui est à côté, qui se trouve à côté. Donc, on n'a pas le choix, finalement, on n'est pas libre de choisir de qui je veux être le prochain. Le prochain, il est là. Voilà. Alors, Paul conclut ce petit paragraphe qui est très fort. Hein, « Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » C'était un avertissement pour les Galates dans leur contexte, mais il me semble qu'il est très important. C'est-à-dire que si on ne va pas dans ce chemin que le Christ nous a montré, ce chemin que nous pouvons employer, et dans lequel nous pouvons nous situer, pourquoi ? Parce que nous sommes en Christ, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va se détruire, soit en se mordant, soit en se dévorant. Alors, ce mordant, c'est nous, on mange, qu'est-ce qu'il mord ? C'est une bête. Donc, on voit bien quand l'homme se rabat à la bête, eh bien, finalement, il va défendre sa liberté envers et contre tous. Et finalement, ce faisant, il va se détruire lui-même. Et donc, ce verbe « mordre » me fait penser à quelqu'un qui veut vraiment défendre sa liberté, et du coup, il va être agressif autour de lui parce qu'il ne va accepter aucune contrainte. Et c'est vrai que, par amour, faites-vous les esclaves les uns des autres, eh bien, ça mène des contraintes. Si on veut se mettre au service de son prochain, eh bien, forcément, ça va me contraindre. Et donc, si je n'accepte pas ça, je vais mordre. Non, moi je ne veux rien, je veux rester libre dans mon isolat. Et cette opposition frontale va conduire à se détruire. Mais il y a une autre façon de se détruire, elle est peut-être plus subtile. C'est l'opposition biaisée. Et c'est celle que je me semble on voit derrière dévorer. Vous n'avez jamais entendu parler d'un amour dévorant ? Ça ne vous dit rien ? Alors j'ai trouvé un texte, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, c'est sous la plume de C.S. Lewis, qui parle de Madame Inlassable qui vient de décéder. Et il est vraiment étonnant de voir combien la famille de Madame Inlassable revit depuis son décès. L'expression tourmentée qui marquait en permanence le visage de son mari s'est évanouie. Il commence de nouveau à pouvoir rire. Le jeune garçon, que j'avais toujours connu comme une petite créature amère et grincheuse, s'avère être quelqu'un de très humain. L'aîné, qui restait pratiquement jamais à la maison sinon pour y dormir, y passe maintenant presque toutes ses journées. Il a même commencé à réaménager le jardin. La fille de la maison, qu'on avait toujours décrite comme fragile, bien que je n'ai jamais pu trouver en quoi consistait le problème exactement, prend maintenant des cours d'équitation, ce qui était hors de question auparavant. Elle danse toutes les nuits et joue au tennis jusqu'à saturation. Même le chien qui ne pouvait jamais sortir sans être tenu en laisse est désormais un membre bien connu de l'association des poteaux de lampadaire dans l'Eure. Madame Lassable avait coutume de dire qu'elle ne vivait que pour sa famille. Ce n'était pas faux, tous les voisins le savaient bien. Elle ne vit que pour sa famille, répétait-il. Quelle mère et quelle épouse exemplaire! Elle faisait toute la lessive. C'est vrai, elle la faisait mal, et ils auraient pu se permettre de porter le linge dans une laverie. On la suppliait régulièrement de ne plus faire la lessive, mais elle persistait. Elle préparait toujours un repas chaud pour ceux qui étaient à la maison, midi et soir, et même en été. Son mari et ses enfants l'imploraient de ne pas le faire. Ils protestaient, souvent même les larmes aux yeux, affirmant qu'ils préféraient un repas froid, et c'était vrai. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle vivait pour sa famille. Elle restait debout pour vous accueillir et vous souhaiter bonne nuit si vous rentriez tard à la maison, jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Quelle que fût l'heure, vous deviez vous attendre à vous retrouver face au visage frêle, pâle et là de Madame Lassable, qui était là, à vous attendre comme une accusation vivante. Ce qui voulait dire, bien sûr, que vous ne pouviez pas décemment sortir trop souvent. Elle confectionnait aussi toujours les choses elle-même. Selon ses dires, je ne peux me permettre aucun jugement personnel, c'était une excellente couturière et elle savait tricoter à la perfection. Inutile de préciser que si vous ne portiez pas les vêtements qu'elle confectionnait, vous n'étiez qu'un sans-cœur. Le pasteur m'a dit que depuis le décès de Madame Lassalle, les dons en nature de sa famille aux kermesses de l'église surpassent la totalité de ceux de tous les paroissiens. N'oublions pas non plus la manière dont elle se préoccupait de la santé de sa famille. Elle voulait porter seule le fardeau de la fragilité de sa fille. Le médecin, un ami de la famille, continuer à vous raconter ce truc qui est quand même assez drôle. Dès qu'il avait brièvement ausculté la jeune fille, la mère le conduisait dans une autre pièce. Il ne fallait pas que la jeune fille s'inquiète, qu'elle assume la responsabilité de sa propre santé. Il ne lui fallait que la sollicitude, des câlins, une nourriture spéciale d'horribles vins toniques et ses petits déjeuners au lit. Comme Madame Lassable le répétait souvent, elle devait littéralement s'échiner pour sa famille. Personne n'aurait pu l'arrêter. Il ne pouvait pas non plus, bien éduqué comme il l'était, l'avoir s'échiner sans rien faire. Il fallait mettre la main à la pâte. En fait, il n'avait pas d'autre choix que de l'aider. C'est-à-dire qu'il faisait des choses pour aider cette femme à faire des choses pour eux dont il n'avait nullement besoin. Quant au précieux toutou, elle le considérait, selon ses propres dires, comme un membre à part entière de la famille. Et c'était ce qu'il était réellement, dans la mesure où c'était dans le pouvoir de Madame Lassalle. Mais comme il était sans scrupules, il s'en sortait plutôt mieux que le reste de la famille, bien qu'il dût survivre au régime, restrictions et traitements particuliers dont il était l'objet, et qu'il fût parfois contraint à des escapades vers les poubelles et les écuelles du chien du voisin. Le pasteur dit de Madame Lassalle que Madame Lassalle a déjà trouvé le repos. Espérons que c'est le cas. Ce qui est certain, c'est que sa famille, elle, l'a trouvé. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un amour dévorant. Vous êtes un peu d'accord avec moi. Et donc, on défend un peu son esclavage. Mon troisième point, c'est libre vis-à-vis de Dieu pour aimer, libre vis-à-vis des autres pour aimer. Et la troisième mention, c'est libre aussi vis-à-vis de soi pour aimer. Et c'est la troisième mention que nous avons de ce verbe « aimer » au verset 22, avec le fruit de l'esprit. Et vous savez, on a souvent épilogué sur le fait que le fruit de l'esprit, c'était le fruit de l'esprit avec ses 9 caractères, ce qui au demeurant est, je crois, assez juste. Mais on pourrait aussi, je vous le soumets, dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, 2 points, la joie, la paix, etc., etc. Vous savez que dans le texte original, il n'y a pas de ponctuation. La ponctuation a été rajoutée par les traducteurs. Et on pourrait aussi imaginer les choses ainsi. Alors, les 9 caractères du fruit de l'esprit sont liés les uns aux autres. C'est des sujets qui ont déjà été abordés ici même. Mais le fait que Paul commence en mettant en exergue l'amour, le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour, eh bien, me semble assez intéressant. Et que cet amour, eh bien, il se manifeste par la façon dont j'ai des attitudes intérieures tournées aussi vers les autres. Et ces attitudes tournées vers les autres se montrent par la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, y compris la maîtrise de soi, qui est souvent un des caractères qu'on dit, mais qui est plutôt tourné vers soi-même. Mais non, parce que si je suis maître de moi-même, honnêtement, ça sera quand même un peu plus facile à vivre pour ceux qui m'entourent, vous ne croyez pas ? Et pas simplement si je fais preuve de beaucoup de bonté et de bienveillance, mais que j'explose très souvent vis-à-vis d'eux. Ça ne sera pas forcément la meilleure façon de vivre. Et donc, ce fruit de l'esprit, c'est la façon dont l'esprit travaille en nous pour, comme le dit Paul dans cette même lettre, pour former Christ en nous. Alors, c'est, je crois, au chapitre 4, verset 19, nous avons cette expression qui est très forte. « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. » Et ce que fait l'esprit en nous, cet esprit dont il est question au chapitre 5 que nous venons de lire dans les versets 16 à 18, cet esprit par lequel nous sommes appelés à marcher, eh bien, c'est de former Jésus-Christ en nous. Et donc, l'action essentielle de l'esprit, c'est de nous transformer, nous qui nous disons chrétiens, en de petits Christ, c'est-à-dire des gens qui sont chrétiens. Et donc, former ce Christ en nous, former par ce fruit de l'Esprit ce que Jésus a manifesté. Et c'est pour cela que dans les versets 24 et 25, il revient sur notre relation en Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié, c'est passé, leur nature propre avec ses passions et ses désirs, et ils sont libres pour aimer. Ils sont libres pour aimer. Et c'est vrai que si je montre dans ma vie ce fruit de l'esprit, cette conformité toujours plus grande à Jésus-Christ, eh bien, parce que je vis par l'esprit, parce que Christ vit en moi par l'esprit, eh bien, je me laisse conduire par l'esprit pour refléter, pour que Christ soit toujours plus formé en moi. Bon, vous me direz, ok, ça c'est très gentil, Joël, mais pour le moment, ça reste quand même un petit peu théorique. Comment, très concrètement, cela se montre-t-il ? Eh bien, nous avons, ça tombe bien, Paul, avant d'aller dans sa conclusion qui commence au chapitre 6 et au verset 11, le découpage en chapitres n'est pas optimal, il faudrait finir le chapitre 5 au verset 10 du chapitre 6, et bien dans le chapitre 6, Paul va nous donner, sous sa forme un peu habituelle, vous savez, à la fin de ses lettres, peut-être parfois parce qu'il n'a plus beaucoup de papier ou de papyrus, il commence à donner des instructions un peu rapides, là, sans trop développer, et bien il fait un peu ça ici, et il nous donne quelques pistes. La première piste, c'est, alors là, elle est surprenante, la première piste pour vraiment montrer de l'amour concrètement, c'est, frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Waouh ! La première façon de montrer de l'amour envers quelqu'un, c'est de lui montrer ses problèmes. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait, hein. Mais Paul est parfaitement cohérent avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Puisque si nous reprenons Lévitique 19, le chapitre qu'il vient de citer, le chapitre qu'il vient de citer en citant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le fameux verset 18, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 17, donc le verset juste avant ?« Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain, et ainsi tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Autrement dit, si j'aime vraiment mon frère et ma sœur, eh bien, je ne le détesterai pas, je le reprendrai à cause d'un de ses péchés. Et on a ce texte, je crois que c'est un psaume, que le juste me reprenne, c'est une huile excellente. Si chaque fois qu'on me reprend, alors il faut que ce soit juste le titre, mais si chaque fois on me reprend, je me disais finalement c'est une huile excellente d'amour de la personne envers moi. Qu'est-ce que ça changerait, ma façon de voir les choses ? Ça, c'est si je reçois ce reproche. Mais si je vois aussi un problème, je peux dire, ben, par amour, je vais me taire, par amour, je vais supporter, par amour, je ne vais rien dire. Ce n'est pas ce que Paul nous dit de faire. Ce n'est pas ce que Paul nous dit de faire. Si quelqu'un vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Et veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Donc je ne vais pas le reprendre en me mettant au-dessus, parce que je sais que je suis capable du même problème, et je ne vais pas le reprendre de façon virulente, puisque l'esprit de douceur doit présider à cela, en particulier dans ce contexte. Et donc j'ai été très frappé de me dire, tiens, finalement, pour montrer concrètement son amour, la première des choses que Paul met en exergue, c'est ça. La deuxième, c'est porter les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplir la loi du Christ. Hein, c'est intéressant ça. Porter les fardeaux les uns des autres. Ça m'a fait penser à un verbe, ce même verbe que nous trouvons dans l'Évangile, où il est dit que Jésus... Et que je retrouve là. Dans l'Évangile selon Matthieu, quand il dit, voilà, le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques, il chassa les esprits par une parole et guérit tous ceux qui se portaient mal, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant, lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies. Alors bien entendu, rares sont ceux qui pourront s'estimer ou avoir la prétention de pouvoir, comme Jésus, guérir tous ceux qui étaient alentour. Mais je rapproche ces deux utilisations du même verbe « porter » pour dire que les charges les uns des autres, nous pouvons les porter dans le sens où nous pouvons pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, avec ce partage que nous pouvons avoir des fardeaux des uns et des autres. Et vous aurez remarqué que combien de fois il est question dans ce seul chapitre, y compris chapitre 6, verset 10, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Comme si Paul nous disait, cette liberté dans laquelle vous avez été introduite, eh bien, elle ne peut se vivre que dans la relation horizontale de l'amour dans la sphère des chrétiens. Donc, portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi on accomplira ce que Christ nous a montré comme exemple, entre autres dans ce verset de Matthieu, chapitre 8, verset 17. Troisième façon très concrète d'aimer les autres, eh bien, c'est être humble. Ça, c'est le chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Et c'est vrai que quel fardeau nous faisons porter aux autres quand on est toujours à se mettre en avant, etc. Et nous avons chacun, moi le premier, besoin d'apprendre cette humilité. Et c'est ce que Paul disait d'ailleurs à la fin du chapitre 5. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant l'autre et en nous portant envie les uns aux autres. Et la quatrième aspect que nous avons au verset 4, c'est aussi le même, ne pas avoir un esprit de compétition, que chacun de vous examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, non pas en comparaison par rapport aux autres. Donc cette humilité par rapport à soi-même, la façon dont on se voit, cette absence de compétition par rapport aux autres, eh bien, c'est ce qui nous introduit aussi dans une vraie liberté d'amour. Donc là, nous avons déjà quatre caractères. Le cinquième, nous le trouvons au verset 6. C'est la générosité à laquelle Paul incite, avec ici l'exemple très concret de celui qui enseigne la parole, mais de façon plus générale. Et puis, d'une manière plus générale, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, parce que les versets vont ensemble, eh bien, c'est faire le bien. Verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable, d'où l'idée de la semence, d'où l'idée qu'on ne se moque pas de Dieu. Et là, nous avons, comme souvent dans les épîtres, des expressions qui sont d'une généralité qui, quelque part, nous gêne un peu, parce qu'on préférerait quelque chose de plus spécifique, mais qui, de notre côté, ouvre un champ tellement vaste pour exprimer l'amour vis-à-vis du prochain, pour devenir serviteur du prochain, faire le bien. Mais c'est quoi ? Eh bien, ça implique, de ma part, une réflexion intelligente, éclairée par l'esprit, qui justement par lequel je suis appelé à marcher, pour savoir qu'est-ce qui est vraiment pour le bien de mon prochain. Madame Inlassable de la fameuse histoire de C.S. Lewis, eh bien, quelque part, elle était totalement à côté de la plaque. Parce qu'elle elle voulait faire le bien, mais ce n'était pas le bien qui convenait, puisque sa famille, elle aurait préféré manger froid alors qu'elle voulait toujours qu'il mange chaud, juste pour reprendre l'exemple. Ce n'était pas le bien, ça c'était son ego. Ça c'était son esprit de compétition, ça c'était son manque d'humilité, pour reprendre les éléments précédents. Et donc nous avons besoin que l'esprit nous éclaire, et m'éclaire pour pour savoir qu'est-ce que représente vraiment faire le bien. Alors, en conclusion, c'est vrai que aimer, si je veux vraiment aimer, cela va, dans une mesure, attenter à ma liberté. Si j'ai une alliance, ben c'est pas comme si je n'avais rien à la main. Mais, ça fait bientôt 30 ans que je suis heureux d'avoir le fil à la patte. Voilà, comme on le dit. Et j'aime beaucoup La Fontaine, comme vous le savez, et il y a la fable du loup et du chien. Vous la connaissez, le chien qui a tout ce qu'il lui faut, et puis le loup qui ne veut pas être attaché. Et le loup, il s'en va attacher, dit le loup, et puis il court encore. Vous voyez, c'est fondamentalement, on aura envie de ne pas être attaché. Mais de notre côté, le chien, il est attaché, mais il a des caresses, il a une bonne nourriture, etc. Voilà. Et donc, on peut avoir cette illusion de se dire, eh bien, je ne vais pas m'attacher, et dans ces cas-là, je vais être libre, mais ça va être terrible. Parce que, quelque part, on s'attachera toujours à quelque chose. Allez, pour la route, une dernière citation de C.S. Lewis. Aimer dans l'absolu, c'est être vulnérable. Aimez quelque chose, et votre cœur sera certainement déchiré et probablement brisé. Si vous voulez être sûr de garder votre cœur intact, abstenez-vous de donner votre cœur à qui que ce soit, même à un animal. Enveloppez-le soigneusement dans le linceul de vos hobbies et de vos petits luxes. Évitez toute forme de relation. Enfermez votre cœur à clé dans le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, sûr, obscur, immobile, sans air, votre cœur changera. Il ne se brisera pas. Il deviendra incassable, impénétrable, indissoluble. L'alternative à la tragédie, ou au moins au risque de la tragédie, est la damnation. En dehors du ciel, le seul endroit où nous puissions être parfaitement préservés des dangers et des désagréments de l'amour, c'est l'enfer.